France Info.
Le gouvernement vacille en Autriche. Le chancelier conservateur Sebastian Kurz a annoncé hier la tenue d'élections législatives anticipées après la démission de son partenaire d'extrême droite. Le vice-chancelier Heinz-Christian Strache est accusé de collusion avec la Russie. Une vidéo tournée il y a 2 ans dans une villa truffée de caméras le montre en train de proposer d'attribuer des marchés publics à une entreprise qui serait liée à un oligarque russe en échange d'argent pour son parti, le FPE. Isorias est à Vienne pour France Info Reportage.
C'est au terme d'une journée riche en rebondissements que le chancelier conservateur a annoncé la convocation prochaine d'élections législatives anticipées, mettant ainsi fin à l'actuelle coalition qui n'aura duré qu'un an et demi, le chancelier Sebastian Kurz.
Vous avez probablement tous observé que ces 2 dernières années, j'ai dû accepter beaucoup de choses. Mais après la vidéo, je dois dire en toute honnêteté, assez, c'est assez. J'invite tous les gens en Autriche qui sont satisfaits de la ligne que nous avons amorcée ces dernières années à nous soutenir lors de l'élection.
C'est la nouvelle qu'espéraient les milliers de manifestants rassemblés devant la chancellerie, tout comme l'opposition. Selon Pamela Rendi-Wagner, la chef des sociaux-démocrates, Sebastian Kurz est responsable de cette crise, car c'est lui qui a choisi de gouverner avec le FPE, le parti d'extrême droite qui paraît affaibli aujourd'hui. Heinz-Christian Strache, à sa tête depuis 2005, a dû renoncer à le diriger à cause de cette vidéo où on le voit proposer à une prétendue nièce d'oligarque russe l'attribution de marchés publics en échange d'un soutien financier. Les élections européennes la semaine prochaine seront donc sans doute un premier test. Vienne, Isorias, France Info.
Le FPE, parti d'extrême droite autrichien, qui était représenté hier à Milan aux côtés de Matteo Salvini et de Marine Le Pen pour ce meeting qui a rassemblé 12 de formations d'extrême droite en Europe. Et derrière ces partis, il y a donc souvent l'ombre de la Russie, excepté pour les partis venant des pays de l'ancien bloc de l'Est, que ce soit la Hongrie ou la Pologne par exemple, qui n'étaient d'ailleurs pas présents hier à Milan. Bonjour Cyril Brett.
Bonjour.
Vous enseignez à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Autriche et de la Russie. Vous avez notamment été en poste à l'ambassade de France à Vienne. Pour quelles raisons plusieurs partis européens d'extrême droite sont-ils aujourd'hui proches de la Russie? Matteo Salvini comme Marine Le Pen se sont montrés tout sourire plus d'une fois aux côtés de Vladimir Poutine.
Pour ces partis, donc Rassemblement National, Ligue, FPE, aujourd'hui, c'est une façon de se financer. C'est une façon d'obtenir également un soutien international dont ils sont dépourvus en raison de l'irréalisme de leur programme. Et pour la Russie, c'est une façon d'organiser la désunion européenne. Le financement des partis réels ou supposés est un des leviers d'action avec la propagande via Russia Today, Sputnik, et avec aussi le financement de voyages d'études pour des parlementaires ou pour des intellectuels proches de ces partis.
Est-ce que pour la Russie de Vladimir Poutine, ça permet aussi de maintenir des liens avec des dirigeants politiques européens, d'avoir encore, je dirais, une certaine influence alors que les relations se sont quand même nettement refroidies depuis l'annexion de la Crimée en 2014?
Tout à fait, c'est la façon d'avoir une alliance de revers. On se souvient également que ce n'est pas l'apanage des partis d'extrême droite. François Fillon avait, durant la campagne présidentielle, défendu des thèses pro-russes, notamment en faveur de la levée des sanctions. C'est aussi pour la Russie une façon de nourrir un vivier d'hommes politiques plus enclins à soutenir ses thèses sur la Crimée, c'est-à-dire l'annexion de la Crimée serait légale, plus enclin également à réclamer une approche plus conciliante à l'égard des intérêts, notamment économiques, de la Russie en Europe. C'est une façon pour la Russie d'obtenir des soutiens également sur des thématiques conservatrices en matière de mœurs ou en matière de place de la religion dans la société.
Ces liens avec ces partis d'extrême droite, ils existent depuis longtemps ou seulement depuis quelques années ?
Depuis très longtemps, depuis le début des années 2000, il faut bien se garder du cliché sur lequel c'est du pur opportunisme. Il y a une vraie convergence politique sur des thématiques conservatrices et sur des thématiques nationalistes. Le prêt consenti par une banque proche du Kremlin en 2014 et renouvelé en 2016 au parti de Marine Le Pen pour un montant estimé à 11 millions d'euros, n'est que la cerise sur le gâteau d'une convergence sur les valeurs fondamentales et notamment la remise en cause des modèles démocratiques et parlementaires à l'ouest de l'Europe.
Et ces liens qui passent, comme on le voit par exemple pour le FPE en Autriche, avec la présence supposée d'oligarques russes, un oligarque russe, ce sont les acteurs clés de l'économie en Russie aujourd'hui, ils sont forcément la courroie de distribution du pouvoir russe ?
On ne peut pas être un oligarque en Russie sans avoir au moins un soutien tacite du Kremlin. C'est le pacte politico-économique passé entre Poutine et les oligarques. Et ces oligarques sont actifs économiquement en Europe, que ce soit au Royaume-Uni, on le voit bien avec les clubs de football, ou avec Chypre qui sert de machine à laver d'énormément d'intérêts russes en Europe. Ça n'est pas comme à l'époque de l'URSS, un réseau strictement organisé, hiérarchisé, mais ce sont à chaque fois des relais utilisés par la Russie en Europe et puis des relais utilisés par les partis nationalistes pour défendre des intérêts qui ne sont pas justement des intérêts nationaux.
Quel peut être le retour sur investissement, entre guillemets, concrètement pour la Russie demain au sein du Parlement européen ?
Désorganiser l'Union européenne. C'est d'abord et avant tout un retour sur investissement négatif. Instiller des doutes sur le caractère démocratique des institutions européennes, organiser la désunion, contester le leadership des deux grands partis pro-européens, donc les sociodémocrates et le parti populaire, et désorganiser durablement le Parlement européen. On l'a bien vu lors de la constitution des groupes, lors du précédent Parlement européen, les partis d'extrême droite et les partis nationalistes sont incapables de se mettre d'accord, ils entrent en tractation pendant très longtemps. Ce qu'essaye de faire la Russie, c'est de faire croire qu'il peut y avoir un bloc nationaliste uni, cohérent avec une offre politique au Parlement européen, et donc faire perdre du temps au projet européen lors de la prochaine mandature.
Et on n'est pas là dans la même stratégie que celle vis-à-vis de l'entourage de Donald Trump aux États-Unis, même si l'enquête russe n'est pas bouclée encore, hein, outre-Atlantique.
Pour les États-Unis, c'est plus complexe. Les éléments de discrédit de la classe politique américaine se mêlent avec des contre-manipulations. Le parallèle est plus difficile, mais ce qui est évident, c'est qu'à la veille des élections européennes, se rappelle de la présence de la Russie dans le débat politique européen est salutaire, y compris pour des raisons tactiques. Hein, votre reportage l'a bien montré. Le grand bénéficiaire aux élections européennes en Autriche la semaine prochaine, ce sera le parti chrétien démocrate. Donc je pense que c'est une piqûre de rappel salutaire à une semaine. Les partis prétendument nationalistes défendent des intérêts qui ne sont pas les intérêts nationaux européens.
Merci beaucoup Cyril Brecht. Je rappelle que vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous êtes également spécialiste de l'Autriche et de la Russie.